franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Le campagnol terrestre qui fait des ravages cette année dans les champs du Massif central, et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Le campagnol mange deux fois son poids en végétaux par jour, et la population de ce rongeur peut atteindre 1000 individus à l'hectare. Imaginez les dégâts occasionnés aux cultures. Mais en voulant se débarrasser du campagnol à l'aide de poisons anticoagulants, l'agriculture empoisonne également leurs prédateurs naturels.
Et tous les 5 ou 6 ans, la population de campagnols terrestres explose. Comment gérer l'invasion de ces centaines de milliers de rongeurs en respectant évidemment au mieux la biodiversité? Pour en parler, nous sommes avec vous par téléphone, Patrick Giraudoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'écologie à l'Université de Franche-Comté et membre de l'Institut Universitaire de France. Et puis avec nous en studio, Hervé Kempf pour notre partenaire reporter. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
À ce problème campagnol terrestre qu'on appelle aussi ratopier, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Hein.
Non, en tout cas en France, on le connaît depuis les années 70, surtout d'ailleurs en Franche-Comté, parce que c'est un animal qui a des cycles de pullulation. Mais depuis quelques années, il infeste notamment le Cantal, la Lozère, le Puy-de-Dôme. On peut même le retrouver dans d'autres endroits comme dans l'Essonne, par exemple dans le Jardin sans pétrole, qui est un peu le laboratoire écologique de reporters. Eh bien, on a des ratopiers qui nous ennuient un petit peu. Et en tout cas, c'est beaucoup plus grave dans la région d'Auvergne, où il y a une exaspération qui s'est traduite même en 2015 jusque dans les urnes, où à Lodeyrat, Pradier et Cézins, les habitants ont voté blanc pour protester contre le ras-le-bol. Ils en avaient ras-le-bol,
R-A-T. Oui.
Vous voyez qu'on est à la veille d'un cataclysme électoral si on ne change pas. Le collectif ras-le-bol donc veut que l'on lutte contre Arvicola terrestris, de son nom scientifique. Car ce petit mammifère, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Côté de Jekyll, vous avez le campagnol terrestre, un charmant petit rongeur soigneux que vous aimeriez prêter à vos enfants. Mais côté Mr Hyde, c'est le ratopier qui dévore chaque jour, comme on l'a entendu, son poids en racines. Et c'est un vrai désastre dans les zones herbagères de moyenne altitude, car l'animal, on l'a dit, peut pulluler pour atteindre jusqu'à 1000, voire 1500 individus à l'hectare. Comment faire? C'est ce que va nous dire Monsieur Giraudoux.
Alors oui, pourquoi Patrick Giraudoux? Est-ce qu'il s'en donne à cœur joie autant que ça et choisit de nouvelles régions, on va dire?
Il ne choisit pas de nouvelles régions. En fait, ces dégâts-là existent dans la plupart des régions de moyenne montagne, en Franche-Comté, en Auvergne, et puis dans les Alpes, depuis le début des années 70, à échelle régionale, on va dire. Par contre, la sensibilité des exploitations peut changer au cours du temps. Donc ce qui s'est passé, c'est que ces pullulations ont été déclenchées pratiquement au début des années 70 par la conversion des terres agricoles en prairies permanentes, 100% de prairies permanentes par la spécialisation pour la production de fourrage et puis des filières lait. C'est un habitat qui est extrêmement favorable au campagnol terrestre, à une autre espèce qu'on appelle le campagnol des champs, mais qui nous concerne moins ici. Et ces pullulations se maintiennent en Franche-Comté comme en Auvergne depuis le début des années 70.
Vous voulez dire que quand on produit du fourrage, on produit du campagnol alors?
Eh bien c'est ça. Si vous produisez du fourrage, et agronomiquement on en produit plus, on produit du fourrage de bonne qualité, agronomique, 100 ans, donc on nourrit bien le bétail qui produit beaucoup de lait, mais en même temps on produit de la matière qui intéresse beaucoup le campagnol.
Alors justement, Patrick Giraudoux, il semble quand même que les pullulations soient cycliques dans ce contexte précisément de la culture d'herbe. Pourquoi alors? Est-ce que seulement tous les 5 ou 6 ans on observe ce phénomène?
Alors ça c'est un phénomène qui est extrêmement mystérieux, très mal compris à l'heure actuelle, parce que le campagnol terrestre n'est pas le seul à subir des cycles de pullulation comme ça. Ce dont on est à peu près certain, c'est qu'il s'agit d'interaction très complexe entre la dynamique de population de l'animal qui est capable de se reproduire de façon très impressionnante. Un couple de campagnols, potentiellement, par l'emboîtement des générations en une année, peut en donner 150 à la fin de l'année. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait explosif. Ce qui est surprenant, c'est pas tellement qu'il y ait des pullulations, ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y en ait pas. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a un facteur qui contrôle les populations de campagnols, ou des facteurs qui contrôlent les populations de campagnols, et d'après les recherches qui sont ce qu'elles sont pour le moment, il s'agit certainement de la prédation et des maladies qui peuvent être répandues à un moment ou à un autre du cycle.
Est-ce que les pullulations n'attirent pas naturellement des prédateurs pour gérer ce cycle?
Absolument. Hein, on est dans un phénomène, on est dans un système complexe, et on a à la fois cause et effet. C'est-à-dire que les concentrations, les fortes densités de campagnols attirent les prédateurs, mais en même temps, certains prédateurs, dits spécialistes, sont capables de mener à extinction, au bout d'un certain temps, la population. Ce qui fait qu'on va avoir une, deux, trois années peut-être sans pullulation, donc avec des basses densités, parce qu'à ce moment-là, on aura en quelque sorte une une forte mortalité des campagnols due à la prédation. Mais à un moment donné, le système échappe. Et là, la reproduction s'exprime à son maximum parce qu'il n'y a plus de mortalité et c'est là que se déclenche un cycle de population.
Hervé Kemp.
J'aurais deux questions à vous poser, mais une sur les prédateurs. Est-ce que on manque pas de prédateurs, autrement dit, notamment par exemple la belette qui aime beaucoup les campagnols. Est-ce que il y a pas un problème sur les belettes? Peut-être qu'elles seraient en voie de disparition, menacées ou pas?
Non, pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. En fait, des prédateurs, il y en a beaucoup plus que par le passé. Si vous regardez à l'échelle européenne, les populations de renards sont en train d'augmenter. La plupart des prédateurs de campagnols sont protégés, comme les rapaces. Vous avez des espèces emblématiques comme le milan royal qui sont extrêmement protégées et qui sont attirées par ces campagnols. Et on voit bien qu'à un moment donné, même s'ils jouent un rôle, ils se font déborder. Donc il y a d'autres facteurs qui jouent et il y a une sorte de décalage entre le moment où on a un pic de population de campagnols et un pic de prédateurs qui puissent amener la population à extinction. Alors quand vous parlez des prédateurs comme la belette ou l'hermine, qui sont des prédateurs dits spécialistes, ceux-là justement c'est peut-être eux qui sont les éléments de déstabilisation du cycle, qui à la fois qui vont amener le cycle la population de campagnols à s'éteindre à un moment donné, mais qui en même temps ne pourront pas rattraper le démarrage de la population suivante.
Allez Hervé, c'est votre anniversaire aujourd'hui, je vous offre une deuxième question.
Ah, quel merveilleux cadeau, parce que ce sujet me passionne, et je voulais comprendre Monsieur Giraudoux, vous parlez des prairies. Alors c'est un peu contre-intuitif, parce que les prairies, elles ont très bonne réputation écologiquement par rapport aux régions de grande culture. Mais est-ce qu'il s'agit des prairies naturelles ou des prairies en quelque sorte artificielles qui sont semées? Est-ce que le campagnol se développe de la même manière dans ces deux types d'écosystèmes?
En fait, les campagnols se développent dans les terres qui sont les plus profondes, les plus riches, et où l'herbe est maintenue la plus haute. C'est-à-dire en gros dans les prairies de fauche ou les prairies qui sont rarement fauchées. Bon, pourquoi maintenant? Alors, tout simplement parce que ces prairies-là, dans le passé, mais dans un lointain passé qui nous ramène aux années 50, étaient en fait des terres de production de céréales, dans la mesure où on avait, même en moyenne montagne, un système de polyculture-élevage. C'est-à-dire qu'on produisait ses propres céréales pour sa propre consommation et celle du bétail. Ce qui n'est plus le cas depuis les années 70. Fort heureusement, l'agriculture a amélioré ses performances, mais du coup, toutes ces terres qui étaient défavorables aux campagnols parce que labourées sont devenues favorables. Et ça, c'est des zones qui permettent aux populations de se développer et puis de déborder sur les autres habitats, et le système s'exponentie, s'amplifie, si vous voulez, au point où on arrive avec tous les milieux prairiaux colonisés par les campagnols, quel que soit leur emplacement.
Et si les prédateurs ne suffisent plus, quelles sont les autres méthodes disponibles pour les agriculteurs?
Alors là aussi, l'agriculteur, il est, comment dire, comme un pianiste par rapport à un piano. Il y a plein de touches, si vous voulez. Une des touches qui a été mise en évidence, c'est les réseaux de taux. Parce que quand vous avez des zones de prairie qui ne sont pas du tout déstabilisées par le labour, mais qui sont maintenues très très stables, qui produisent beaucoup de matière organique, parce que l'agriculture est efficace de ce point de vue-là, on produit beaucoup d'herbes, donc de la matière organique, on produit du ver de terre, et ça c'est bien pour les taupes, qui font des tas de galeries. Et ces galeries-là, c'est des galeries qui facilitent l'accès des parcelles aux campagnols. Autrement dit, il y a une synergie qui s'exerce entre la population de taupes et celle du campagnol. Ça c'est le premier problème. Les campagnols colonisent les galeries de taupes, les agriculteurs ne les voient pas arriver, parce qu'il n'y a pas d'indice de surface qui permet de les reconnaître, et au moment où ça explose, c'est trop tard. Donc la première chose à faire, c'est déjà de contrôler les populations de taupes pour qu'elles soient à des niveaux raisonnables qui permettent de voir l'arrivée des campagnols. Ensuite, on peut déstabiliser les populations de campagnols en ayant des régimes de fauche qui soient à coupe basse, c'est-à-dire qu'on est en permanence toujours de l'herbe basse et pas de l'herbe haute. On peut déstabiliser les populations aussi en faisant piétiner les parcelles par le bétail. On peut aussi introduire de façon modérée, parce qu'il y a une législation qui limite ça, une dose de labour, par exemple, pour produire des céréales qui servent à la consommation du bétail et qui évitent d'acheter du complément. Donc il y a toute une palette d'actions convergentes qui permettent de contrôler la situation pour les agriculteurs qui commencent à le faire avant la pullulation. Au moment de la pullulation, ça sera trop tard.
Bon, donc il faut mettre ça au point, évidemment, pour essayer de se débarrasser de ces rats. Juste une dernière question, Patrick Giraudoux, sur les problèmes sanitaires. Est-ce qu'ils existent, justement, liés directement à ces animaux?
Il existe des maladies, effectivement, dont les campagnols sont les réservoirs. La plus connue, du moins, on la connaît beaucoup en Franche-Comté, dans les sud de la France, parce qu'elle est historique, c'est une maladie au nom compliqué qu'on appelle l'échinococcose alvéolaire. C'est un ver parasite qui est hébergé par les campagnols, mais qui se développe dans l'intestin du renard et qui peut, dont les œufs peuvent infecter l'homme. Et là, c'est une maladie très grave qu'on appelle l'échinococcose. Donc plus on a de campagnols, en gros, plus il y a de risques que le cycle s'intensifie. Et il y a une autre maladie aussi qu'on appelle le poumon du fermier, qui est une maladie d'hyperréaction immunitaire, on va dire, contre ses propres poumons, c'est pour faire simple, hein, et qui est stimulé par les mélanges de foin et de terre qu'on peut avoir quand on récolte le foin au moment des pullulations. Et ça affecte les agriculteurs qui travaillent dans ce domaine-là.
Merci beaucoup Patrick Giraudoux pour vos précisions. Bon courage donc avec ces animaux qui ont l'air d'empoisonner la vie de pas mal de monde.
Vous savez, il y a beaucoup d'agriculteurs qui pour le moment ont trouvé le moyen de lutter, qu'ils le font de façon très, très mesurée et intelligente.
Et puis on retrouve évidemment cet article sur reporter.net, Hervé.
Absolument.
Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Bonne journée Axel, à demain.
Bonne journée.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des patients victimes d'AVC remarchent grâce aux cellules souches. Les accidents vasculaires cérébraux entraînent de lourdes séquelles, difficultés à parler, écrire, se déplacer. Et selon une étude publiée dans la revue Stroke, des chercheurs américains ont prélevé des cellules souches chez plusieurs donneurs. Ils les ont ensuite modifiées pour les amener à se différencier en cellules souches neuronales et les ont directement injectées dans le cerveau des patients atteints donc de handicap moteur. Cette expérience est très prometteuse puisqu'elle a permis de restaurer les fonctions motrices des personnes touchées dès les premiers mois. Des bactéries qui piègent du CO2 et de l'hydrogène pour produire des biocarburants, voilà l'idée du chimiste Daniel Nocera de Harvard. Ces petites créations génétiquement modifiées présentées la semaine dernière à Chicago permettent de convertir en carburant le CO2 atmosphérique avec une efficacité 6 fois supérieure à celle des plantes par photosynthèse. Ces travaux publiés prochainement dans la revue Science intéressent déjà les industriels, mais ne représentent selon l'auteur qu'une solution transitoire puisqu'une fois brûlé, le CO2 des biocarburants rejoindrait à nouveau l'atmosphère. Et puis une chambre magmatique découverte non loin de la zone volcanique de Taupo, c'est en Nouvelle-Zélande, dans une étude publiée dans la revue Science Advances. Cette poche se situe à 9 km sous la surface. Elle a soulevé la Terre de 40 cm depuis les années 50. Les nombreux tremblements de terre dans cette région n'étaient donc pas provoqués par le mouvement des plaques tectoniques, mais bien par un volcan en formation. Une découverte surprenante car cette zone ne connaissait plus d'activité volcanique depuis plus de 400 000 ans.